Bonjour à toutes et à tous, il est 8h. Pendant son festival Écran Total, le cinémateur diffuse Made in Bangladesh au cinéma La Grenette. Lundi, la séance sera suivie d'un débat animé par Artisans du Monde et Amnesty International. Toute la semaine, nous avons diffusé chaque jour une partie de l'interview de Philippe Abel. Aujourd'hui, vendredi 14 février, on écoute l'interview entière. On parlera du film, des conditions de travail des femmes au Bangladesh et de notre responsabilité en France. À 8h20, Michel nous présente Eiffel, l'artiste de la semaine. À 8h30, Shell and Peel, Théophile revient sur la New Wave avec les plus gros tubes des années 80. À 8h45, Le Carnet. Et France restera à l'antenne pour nous parler de l'endive dans la chronique À Table.
Radio B.
Radio B, Radio B.
90 FM.
L'interview de la semaine, c'est celle de Philippe Abel. Il est membre d'Amnesty International et avec lui, on s'interroge sur les conditions de travail des femmes au Bangladesh montrées dans le film Made in Bangladesh. Il est projeté ce film notamment lundi avec un débat ensuite en partenariat avec la MJC, Artisans du Monde et Amnesty International. C'est à l'occasion du festival Écran Total du Cinémateur. Philippe Abel, bonjour.
Bonjour.
Le 17 février, le Cinémateur diffuse au cinéma La Grenette le film Made in Bangladesh. Et après, Artisans du Monde et Amnesty International, dont vous faites partie, animeront un débat. De quoi parle le film ?
Oui, alors effectivement, comme vous dites, c'est un débat qu'on va mener en partenariat avec les cinémateurs, Artisans du Monde, mais également la MJC, dans son dispositif passeur d'images. Et le film parle du combat d'une ouvrière au Bangladesh qui se bat pour créer un syndicat dans son usine, dans ce qu'on appelle là-bas les ateliers de la misère, et avec toutes les difficultés que vous imaginez, parce que pèse sur elle notamment tout le poids de l'exploitation capitaliste, mais aussi le poids d'une société patrimoniale. Mais en même temps, c'est un film d'espoir, c'est pas du tout misérabiliste, c'est un film d'espoir sur la volonté et le courage de cette femme qui se bat pour ses droits et puis pour les droits des autres ouvrières qui travaillent dans les ateliers de couture au Bangladesh.
Donc c'est surtout des femmes qui travaillent dans ces ateliers ?
Alors en fait, au Bangladesh, 85% de la main-d'œuvre dans les ateliers de couture sont des femmes. Sachant que du coup, ce sont les femmes qui font vivre le Bangladesh, puisque 80% des exportations du Bangladesh proviennent justement des ateliers de couture. C'est donc effectivement la colonne vertébrale économique du Bangladesh. Et le travail, c'est à la fois pour eux une exploitation, mais aussi un outil d'autonomisation, une reconnaissance qu'elles ont gagnée par rapport à leur travail, puisqu'elles font vivre l'économie du pays.
Et voilà, et ce film il traite de questions un peu féministes. Pourquoi c'est particulièrement difficile pour une femme au Bangladesh de monter un syndicat ?
Alors, c'est difficile pour plusieurs raisons. Alors, déjà, il y a le poids de la société patrimoniale. On le voit dans le film, le conflit avec son mari. Les hommes ont perdu pas mal confiance en eux au Bangladesh parce que pas mal ont perdu leur emploi. Ils comptent sur l'emploi de leur femme, mais en même temps, il y a une part de liberté et d'autonomie qui, de par une société patrimoniale, ils ont du mal à accepter, première chose. Et puis, deuxième chose, il y a tout le poids de l'exploitation des capitalistes. Et puis, compte tenu des conditions de travail et de l'exploitation de femmes qui sont payées quand même en 80 et 100 euros par mois en deux t-shirts, elles ont leur salaire du mois. Les patrons ne souhaitent pas qu'elles soient davantage payées, améliorer leurs conditions de travail, puisqu'ils sont très pris par les conditions que leur imposent des sociétés multinationales. Et évidemment, un syndicat, les meilleures conditions de travail, un meilleur salaire pour ces femmes-là, ils considèrent que ça va faire chuter la productivité et la rentabilité de leurs entreprises vis-à-vis des multinationales qui leur mettent la pression, justement.
Comment ça se fait que ce soit les femmes qui aient tout le travail dans les entreprises textiles et pas les hommes ?
Parce que si vous voulez, au fil du temps, alors le Bangladesh est un pays un peu paradoxal. Contrairement à ce qu'on croit, c'est un pays les plus avancés sur les écarts entre les hommes et les femmes. La chef de l'État est une femme, la chef de l'opposition est une femme, la majorité de l'opposition sont des femmes au Bangladesh. On ne pourrait pas forcément en dire autant. D'ailleurs, chez nous, il y a 72% d'alphabétisation et de plus en plus de filles qui vont à l'école. Et du coup, les femmes ont gagné leur autonomie par rapport à 20 et 30 ans et se sont imposées pour travailler dans les ateliers de couture, notamment à côté des hommes et puis au lieu et place des hommes, mais toujours quand même sous la direction et sous la responsabilité des hommes qui gardent quand même les postes de direction. Toujours est-il que ces femmes, alors quand on dit des femmes, il faut être clair, c'est des femmes de 18 à 30 ans, parce que compte tenu de leurs conditions de travail, 10 heures par jour, 6 jours par semaine, plus les heures de nuit supplémentaires, à 30 ans, elles sont cassées. Mais de fait, toute la force vive en termes de travailleurs au Bangladesh est constituée pour l'essentiel, encore une fois, 80% de travailleuses, pour toutes les raisons que j'ai indiquées.
Le point de départ du film, c'est l'effondrement d'un immeuble qui a causé plus de 1000 morts dans les ateliers. C'est un événement qui a réellement eu lieu au Bangladesh et c'est le drame de Rana Plaza en 2013. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors déjà, si vous voulez, parce que alors, le Rana Plaza, effectivement, comme vous le dites, a eu lieu le 24 avril 2013. Si on se remet dans le contexte, Rana Plaza, c'est un atelier avec une usine de plus de 5000 personnes qui appartient à M. Rana, qui est un politicien de la Ligue Awani, hein, un parti qui est majoritaire au Bangladesh, et qui a quand même provoqué 1130 morts. 1130 morts et des milliers de personnes blessées et handicapées, dont beaucoup de femmes et d'enfants qui vivaient dans l'atelier en question. Les circonstances sont aussi terribles puisque la veille, des inspecteurs de sécurité avaient décelé des fissures, demandé à ce qu'on évacue l'atelier. Les ouvriers avaient refusé de prendre le travail et avaient été obligés sous la menace de licenciement. Donc ça a été un choc au niveau mondial. Puisqu'effectivement, il y a eu un hashtag hein, qui fabrique mes vêtements et une grosse mobilisation aussi au Bangladesh. Et pour la première fois, il y avait une tâche sur les entreprises multinationales qui montrait dans quelles conditions elles faisaient travailler leurs sous-traitants, leurs filiales et leurs fournisseurs. Et que finalement, les t-shirts à bas prix, on les avait grâce au sang et à la sueur des femmes du Bangladesh en question. Voilà pour quelle raison ça a été un choc au niveau international, au-delà même de la situation au Bangladesh et des manifestations que ça a suscité.
Donc un choc mondial. Et d'ailleurs en France, cet événement a donné son nom à une loi, la loi Rana Plaza. De quoi s'agit-il pour les entreprises ?
Voilà. Alors donc il faut faire un petit historique. Grâce à cet événement qui est devenu mondial, hein, comme vous le disiez, il y a eu une mobilisation des ONG, hein, des organisations non gouvernementales, en demandant déjà que les entreprises multinationales qui créent le risque soit tenue pour responsable du risque qu'elle crée en matière d'environnement, en matière de droits humains, en matière aussi de lutte contre la corruption, et en revendiquant le fait que ces droits humains devaient passer au-dessus du droit commercial. Et ça a donné lieu aux premières normes internationales en matière de droits humains, de ce qu'on appelle l'obligation de vigilance des entreprises multinationales, avec notamment un pacte mondial de l'ONU, et puis une organisation tripartite au niveau de l'OIT, une plateforme au niveau de l'Organisation internationale du travail, pardon, reconnaissant pour la première fois au niveau mondial cette obligation de vigilance des entreprises multinationales. Le gros problème, c'est que ce n'est pas obligatoire. Et donc, Amnesty et d'autres ONG, hein, on n'est pas tout seul, loin de là, ont relayé cette obligation de vigilance internationale pour que ce soit obligatoire en France. Et ça a donné lieu à la loi du 27 mars 2017. Vous voyez, quand même, 4 ans de combat acharné qui, pour la première fois en France, reconnaît à toutes ces entreprises de plus de 5000 salariés en France et plus de 10 000 dans le monde, l'obligation d'un plan de vigilance. Donc pour identifier le risque, pour prendre des mesures de prévention et pour les évaluer. Pour la première fois, effectivement, donc on a la France est un peu à la pointe hein, sur cette obligation juridique du combat, mais grâce à la mobilisation des ONG. Et donc c'est un grand progrès qu'il faut poursuivre, parce que ces plans de vigilance, malheureusement, on en a fait l'évaluation 3 ans après, il y en a très peu, ou alors ils sont indigents, il n'y a pas grand-chose dedans.
Est-ce qu'ils sont concrètement respectés et mis en place ?
Alors, le gros problème, si vous voulez, c'est ça, hein, c'est qu'on a analysé, donc je vous ai dit 27 mars 2017, 2 ans après, on a analysé les plans de vigilance en question. Et sur 80 entreprises qui devaient réaliser des plans de vigilance, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont fait aucun plan de vigilance, et puis certaines dans lesquelles il n'y a pratiquement rien en termes de cartographie des risques. Mais, encore une fois, c'est un progrès. Hein, c'est un progrès. On peut s'appuyer, nous, sur une base juridique, et maintenant, on revendique que l'État prenne ses responsabilités et demande aux entreprises d'appliquer véritablement les plans de vigilance. Au moins, on a une base pour le faire, ce qui n'était pas le cas avant.
Et si les entreprises ne respectent pas, est-ce qu'il y a des sanctions ? Est-ce que la loi, elle va assez loin ?
Alors, la loi prévoit des sanctions. Donc maintenant, en fait, il faut faire des recours. Hein. Il faut que, lorsque de nouvelles catastrophes se produisent, que des recours soient faits à l'encontre de ces entreprises-là pour qu'elles soient condamnées par le juge. Malheureusement, ou heureusement, hein, puisqu'on est dans un état de droit, l'étape suivante, c'est celle-ci.
Vous parliez de cartographie des risques. Quels
oui.
sont-ils ?
Alors, les cartographies des risques, c'est pour identifier tous les risques qui, de par les activités des entreprises ou Et ça, c'est très important. Parce que c'est très complexe hein, comme organisation. C'est un système de satellisation avec beaucoup d'écrans juridiques. Hein, mais où des fournisseurs, des sous-traitants et des filiales des entreprises. Donc toutes les activités qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits humains, exemple sur les conditions de travail, à l'environnement, les pollutions liées à l'industrie textile ou même à la corruption dans les pays, parce qu'il y a une corruption massive au Bangladesh comme ailleurs, que c'est, tous ces risques-là soient identifiés et que les entreprises prennent des mesures concrètes de prévention pour y remédier.
Et donc maintenant, est-ce qu'on a une idée de la façon dont se passe le travail au Bangladesh ?
Alors maintenant, en fait, si vous voulez, après le Rana Plaza, alors il y avait eu d'autres catastrophes avant le Rana Plaza, et il y en a eu après, hein, puisqu'après on décompte encore à peu près 500 morts, hein, pour qu'autant qu'on puisse s'en rendre compte au niveau des ouvrières du textile. Mais il y a une forte mobilisation de la société civile, et notamment des travailleuses, hein, je le redis. Et grâce à cette mobilisation, alors ça va paraître dérisoire hein, mais par rapport à nos salaires, mais, et notamment en janvier 2019, ça a permis, entre autres, d'augmenter les salaires alors de 80 à 100 euros hein, par mois. Vous hein, voyez, on est, hein, c'est quand même pas le Pérou, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, mais ça a permis ça. Et d'améliorer un peu notamment les conditions de travail et les conditions de sécurité dans les usines. Hein, parce qu'il n'y a pas de conditions de sécurité, il y a des installations électriques défectueuses, il n'y a pas de porte de sortie de secours, ce qui explique entre autres d'ailleurs la catastrophe du Rana Plaza. Hein. Donc il y a encore beaucoup de défis, il y a encore énormément à faire, mais la mobilisation de la société civile a permis quand même, par rapport à la situation antérieure, d'améliorer un peu, grâce à leur mobilisation, la situation des ouvrières en question.
Est-ce qu'il y a le droit de grève et de manifester au Bangladesh ou pas ?
Alors, déjà la première chose, c'était le droit de créer un syndicat. Hein, c'était la première chose. D'ailleurs, c'est le combat de Chimou, hein, de pouvoir créer son syndicat et de le faire enregistrer. Il y a une scène extraordinaire au ministère des Chemins de Fer qui a été reproduite, qui était effectivement la revendication d'Alia, hein, qui est donc la syndicaliste hein, que reprend Chimou au niveau du ministère du Travail, dans lequel elle dit si vous ne m'autorisez pas à créer mon syndicat, elle dit aux bureaucrates du coin, hein, du ministère, je me pends dans votre bureau, vous voyez hein. Donc, déjà créer un syndicat. Après, le droit de grève et de manifester n'existe pas forcément en tant que tel. En tout cas, ça résulte de rapports de force. Mais il y a néanmoins beaucoup de manifestations. Il y a des syndicats, il y a des grèves aussi, mais qui sont bien souvent réprimées. Donc après, c'est une question de rapport de force.
C'est quoi le régime politique, la situation politique ?
Alors, c'est une démocratie libérale, hein, parlementaire, avec notamment, alors il y a une assemblée, hein, il y a une présidente, hein, il y a une opposition aussi. Mais alors le problème, c'est qu'il y a quand même un parti qui est très majoritaire, qui est la Ligue Awami, et puis qui est très lié aux intérêts économiques en place, avec une corruption très forte. Hein. Donc vous voyez, c'est un régime libéral, mais comme qui est très lié à des intérêts financiers et qui limite la liberté d'expression et les droits des travailleuses.
Au Bangladesh, l'industrie du textile a fait tripler par 15 le PIB entre 1980 et 2018.
Tout à fait.
Cette industrie, elle est nécessaire au pays et est-ce qu'elle peut être responsabilisée ?
Alors, elle est indispensable au pays. Hein, et à coup sûr, la mauvaise réponse qu'il faudrait apporter, nous, en tant que consommateurs occidentaux, c'est le boycott. Des produits du Bangladesh, hein, des t-shirts du Bangladesh. Les ouvrières ne demandent pas le boycott, au contraire, c'est leur faire perdre leur travail. Hein. Mais après, c'est à nous responsabiliser en tant que consommateurs occidentaux pour réaliser que deux t-shirts qu'on peut acheter, c'est un mois de travail pour ces ouvrières, déjà d'une. Et de deux, qu'il y a des manifestations comme le Black Friday, par exemple, qui conduisent à leur mettre une pression bien supérieure avec des cadences de travail encore plus infernales pour pouvoir produire, y compris la nuit d'ailleurs, sur de simples heures supplémentaires. Donc c'est vrai que la solution, c'est de continuer à acheter des t-shirts, hein, des marques qui viennent du Bangladesh, mais se mobiliser de façon à ce qu'elles soient mieux payées, c'est-à-dire que concrètement, on achète davantage au juste prix les t-shirts qui viennent du Bangladesh. Alors, avec effectivement une garantie aussi pour elles qui est importante, c'est que malheureusement, et c'est la pression des chefs d'entreprise qui disent, et là c'est le cas de Modern Apparels, si vous mettez trop la pression pour le prix des t-shirts, et bien l'entreprise va fermer. Et le Bangladesh ne va plus produire, ça va aller en Éthiopie, où l'Éthiopie donne encore des prix bien inférieurs encore à ceux du Bangladesh. Donc je pense qu'en fait, il faut se référer à la capacité d'agir, au pouvoir de ces femmes-là, être à leur écoute, ne pas plaquer nos stéréotypes et les soutenir effectivement en achetant ces t-shirts davantage à un juste prix, mais en lien avec ce qu'elles nous disent, elles, et le message qui vient d'elles, parce qu'elles connaissent leur situation et connaissent la façon dont on peut les soutenir, y compris économiquement.
Mais du coup, vous, en tant que membre d'Amnesty International, je peux comprendre que vous puissiez avoir une influence, mais nous, on va dire en France, en tant que consommateurs, comment on peut acheter au juste prix ?
Vous savez, toutes ces entreprises, alors il y a H&M, il y a Auchan, il y a Carrefour, etc., elles sont quand même soucieuses d'un minimum de respectabilité, déjà d'une. Donc je pense que l'éthique sur l'étiquette, par exemple, des mouvements comme ceux-là, au niveau des ONG, hein, qui effectivement demandent à ce que ces femmes-là soient davantage reconnues au niveau de leur salaire, au niveau économique, déjà par la mobilisation, ce type de mobilisation, ça a du poids sur ces entreprises, déjà ça. Hein. Quitte d'ailleurs à voir, alors ça c'est effectivement un plus long terme sur le système économique, des systèmes de commercialisation qui soient plus respectueux des gens qui travaillent et qui fabriquent les produits en question et qui aient une plus juste répartition de la plus-value entre les ouvrières qui produisent et puis l'ensemble de la chaîne de commercialisation d'ailleurs. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail de long terme parce que les entreprises aussi commencent un petit peu à évoluer dans leur tête parce que ça leur porte préjudice, mais très concrètement, les pratiques n'ont pas fondamentalement changé. Je pense que c'est essentiellement par la mobilisation du consommateur et par l'évolution du système économique qui est le nôtre qu'on arrivera à réguler les choses. Mais là, on rentre aussi dans un problème plus vaste qui est la question de la régulation du néolibéralisme, du néocapitalisme qui est sans contrôle actuellement et qui pose de gros problèmes, pas simplement au niveau de l'industrie textile. Et puis, mes artisans du monde en parleraient mieux que moi, même s'ils ne sont pas forcément spécialisés sur les t-shirts. Il y a tout le commerce équitable aussi hein, qu'on peut mobiliser pour ça.
On va revenir sur le film.
Oui.
On peut avoir l'impression que dès qu'on fait un film ou quelque chose, dès qu'on dit quelque chose qui dénonce un peu nos habitudes, on dit que c'est culpabilisateur. Et du coup, est-ce que le film Made in Bangladesh, c'est un film culpabilisateur, votre avis ?
Il est tout sauf culpabilisateur. Hein. Alors déjà, j'ai insisté là-dessus, c'est pas dans le misérabilisme. Hein. Ça aussi, il faut s'en garder. Ah, la pauvre ouvrière du Bangladesh, il n'y a pas d'espoir, c'est foutu, elles sont exploitées. Non, elles ont un courage, encore une force de volonté extraordinaire et elles montrent la force aussi de la solidarité des travailleuses, d'une part. D'autre part, c'est un film où là, nous, on n'est pas pour faire la leçon aux gens. Hein, d'ailleurs, on n'aime pas ça. Quand je dis on va être en co-animation, notamment Artisans du Monde, on n'est pas là comme donneur de leçons parce qu'on trouve que c'est contre-productif. On est là pour faire réfléchir les gens, déjà pour s'interroger, et de voir à partir de là quelles, eux, peuvent être leurs responsabilités en tant que consommateurs, mais sans les culpabiliser. Type de la question que vous avez posée. Bon, bah, très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on regarde, il y a éthique et étiquette, on peut se mobiliser, il y a les ONG. Est-ce qu'il y a des filières d'achat de t-shirts à des prix qui soient équitable, qui soit responsable au niveau de l'équité sociale. Vous voyez, on est plus là pour amener les gens à s'interroger, à se poser des questions et après voir eux-mêmes, s'ils veulent, comment évoluer dans leur propre comportement. Mais pas pour leur faire la leçon et les responsabiliser parce que déjà, c'est, passez-moi l'expression, c'est idiot, c'est contre-productif de faire la leçon aux gens. Et puis en plus, d'une certaine manière, c'est opposer encore une fois les gens les uns aux autres. Certains qui n'ont pas les moyens de s'acheter un t-shirt, qu'on va culpabiliser, ça n'a pas de sens. C'est plus en termes de réflexion personnelle et de voir comment eux peuvent évoluer dans leur propre comportement.
Et vous, Amnesty International, comment vous pouvez contribuer au respect des droits humains ?
Alors là, en l'espèce, bah, j'ai dit que c'était un partenariat. Parce qu'on a tout un volet de campagne qu'on a appelé responsabilité sociale des entreprises et qui a conduit donc autour de tous les droits économiques et sociaux et qui a conduit notamment au traité en question dont je viens de parler, sur lequel nous, après, on s'appuie pour faire pression sur les sociétés multinationales. Ça, c'est une chose. D'une manière générale, on demande à ce que soient respectés les droits humains au niveau de la Déclaration universelle des droits humains. Et on mène des campagnes dans ce sens-là pour le respect de la Déclaration universelle des droits humains, et encore une fois avec des campagnes très concrètes, et notamment en s'adressant à l'opinion publique, là aussi sans faire de leçon, mais à chaque fois en ayant des revendications très concrètes. Ce qui est intéressant de voir ces deux choses, c'est que premièrement, on s'adresse beaucoup aux États, mais voyez, pas qu'aux États. Hein, là aussi, on s'adresse aux entreprises, hein, ou avec, au niveau des groupes armés aussi. On voit que quand on dénonce des violations des droits humains, quand on mobilise l'opinion publique, quand on est concret dans nos attentes aussi, on atteint des résultats.
Merci Philippe Abel.
Merci à vous.
Le film Made in Bangladesh est projeté au cinéma La Grenette, par exemple ce soir à 19h. Il y a beaucoup d'autres séances et lundi, après la séance à 19h, il y aura un débat animé par Amnesty International et Artisans du Monde. C'est dans le cadre du festival Écran Total du Cinémateur qui se déroule jusqu'au 25 février.